pour vous, voici Page après page avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec un auteur.
Dans les couloirs du Capitole, cap sur les Pyrénées, je m'en vais comme une folle retrouver celle que j'aimais. Oui, je veux mourir en Ariège, toute nue, me coucher dessus la neige, ne plus. Partir, ne plus mentir, rire et puis rire et puis rire, ne jamais revenir. Partir, ne plus mentir, rire et puis rire et puis rire, ne jamais revenir. Garde-palmier, garde-palmier, deux minutes d'arrêt. Pardon monsieur, non, c'est rien. Oui, je veux mourir en arrière, toute nue, et m'endormir sous la neige. Partir, ne plus mentir, rire et puis rire et puis rire, mais jamais je revenir. Partir, ne plus mentir, rire et puis rire et puis rire, mais jamais je revenir. Dans ce cimetière de neige, je vis. S'illuminer mille cierges, fin de nuit. À l'aube, je meurs en Ariège, sans eux. Cercueil de neige, pour moi.
Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver dans Page après page. Ce mois-ci, je vous propose un nouvel auteur. Il s'appelle Robert Redeker. Il est philosophe, auteur de nombreux ouvrages sur le sport et le corps. Et c'est d'ailleurs la lecture qu'il m'a confiée pour ce mois-ci. Bonjour Robert Redeker.
Bonjour, bonjour aux auditeurs également.
Nous avons écouté une belle musique. Qu'est-ce qui a guidé votre choix justement pour commencer cet entretien ?
Ah, c'est ma compatriote ariégeoise, puisque je suis né dans le Couserans, Ariel Burgelin, qui a une carrière avec de multiples facettes. Actuellement, elle est poète. Un nouveau recueil sort au mois de janvier. Elle a été aussi mannequin chez les plus grands couturiers et surtout muse et modèle de deux des plus grands photographes, surtout Helmut Newton. Et c'est une vieille famille ariégeoise. On peut croiser, je ne sais pas si on croise des caveaux, mais on peut croiser le caveau de sa famille au cimetière d'Angomère. Mm-hmm. Texte magnifique, voix très intéressante.
En effet. Vous avez écrit beaucoup de livres. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ?
Ce n'est pas un choix. Je crois qu'on ne choisit pas d'écrire. On ne se dit pas... Oui. Un jour, tiens, je vais écrire. Moi, j'ai beaucoup lu depuis l'enfance. Enfin, j'ai dû commencer par de la poésie, je crois, oui. Puis, il s'est passé des choses bizarres, peut-être. Au CM2, j'ai eu un instituteur un peu fou. Il m'a fait lire La Peste de Camus au CM2. Voilà.
Ah oui.
Bon, puis, ça m'a vraiment donné le goût de la lecture à haute dose. Vers les 15 ans, j'étais élève au lycée de Buret, à l'époque. Qui ne s'appelait pas encore Pierre d'Aragon.
Oui.
C'était un peu la campagne, hein, le lycée de Muret au tout début des années 70. Et il y avait une bibliothèque, il n'y avait pas encore de CDI, c'était bibliothèque, bibliothécaire. Et puis j'ai pris par hasard un Kierkegaard qui était là. Et ça m'a fait entrer dans la philosophie. Donc le hasard a aussi son rôle, mais le hasard ne réussit à vous attraper que si vous étiez prêt ou prête à être attrapé. On dit qu'elles sont de hasard, mais c'est pas vraiment,
Oui.
vraiment tout à fait ça. Puis à force de lire, on a envie d'écrire. On ne choisit pas, puis on se met à écrire.
Est-ce que l'homme vous intéresse en tant qu'homme?
Oui, je crois que finalement, dans tous les livres, ils se ramènent tous à la question qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce qu'il est en train de devenir. Je ne veux pas faire dans la pédanterie, je ne veux pas ennuyer les gens, mais le philosophe Emmanuel Kant, grand philosophe des Lumières allemandes, a dit ceci: finalement, toutes les questions de la philosophie se ramènent à une seule question, qu'est-ce que l'homme? C'est-à-dire donc à la question anthropologique. Vous allez dire, ben, vous ne faites pas preuve de grande originalité. Ben non, mais si c'est la question importante, on ne va pas chercher à faire preuve de grande originalité. On va chercher à percer le mystère de l'être humain.
Vous aimez le sport, certes, vous allez nous dire d'ailleurs pourquoi cette critique pertinente dans le livre que vous m'avez confié et que vous avez développé d'ailleurs dans ce livre autant qu'à travers le sport. Sport, je t'aime moi non plus, un titre qui en dit beaucoup et qui en dit peu aussi à la fois. C'est paru aux éditions Robert Laffont au printemps 2022, donc c'est un livre tout récent.
Je me permets un petit ajout.
Oui.
Il faut ajouter que c'est en coédition avec l'INSEP,
Ah d'accord.
l'Institut national
Je
des
n'avais pas fait
sports et de
attention.
la performance. L'INSEP participait
Oui.
au financement et à la distribution de ce livre.
Pensez-vous que le sport doit être libérateur, artistique ou pas du tout?
D'abord, s'il n'est pas libérateur, il n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on peut vouloir dire par libérateur. L'idée que je vais présenter peut étonner. Ce qui pèse sur nous, finalement, le moi. Hein. Et bon, l'attachement au moi, enfin, c'est quelque chose de très prégnant chez les modernes. Et il me semble que c'est en ce sens qu'on peut dire que le sport est libérateur. Lorsque nous faisons vraiment du sport, c'est-à-dire non pas pour paraître dans les classements, non pas pour avoir l'air plus fort que le voisin, ainsi de suite, lorsqu'on en fait vraiment, il y a le sentiment d'immensité qui nous envahit. C'est pas l'immensité égoïste de celui qui se croit plus fort que les autres, mégalomane, Napoléon ou je ne sais pas. C'est l'immensité, ça aussi. Non, le sentiment d'immensité, c'est finalement le sentiment de ne plus être le petit moi que nous sommes. Finalement, de nous disperser un petit peu dans la nature, dans l'univers, dans le cosmos. Alors, comment cela m'est venu? C'est un certain moment de l'adolescence. Nous habitions Paysis avec mes parents. Moi, j'étais assez solitaire à ce moment-là. Et ce que j'aimais faire, c'était de courir dans les champs et dans les bois, tout en lisant un philosophe qui était le philosophe de la nécessité. À ce moment-là, je lisais Spinoza. Ça, je m'en souviens très bien. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, ou la nature, c'est-à-dire Dieu. L'idée de Spinoza, vous savez, tout à fait à la fin de l'éthique, alors je vais expliquer le sens des mots, parce que sinon, Spinoza dit que le bonheur, c'est l'amour intellectuel de Dieu. Ce qu'il appelle Dieu, c'est la nature. Et l'amour intellectuel, c'est accepter ce qu'elle est et comme ça fusionner avec elle. L'amour intellectuel, c'est ce que je veux et ce que j'aime, c'est ce que la nature veut, ce que la nature aime. Mais elle n'est pas personnalisée, la nature, hein, quand il dit
Oui,
la
oui.
nature. Finalement, je lisais Spinoza, je courais beaucoup, je faisais énormément de vélo, mais dans cette optique-là, qui est une optique où finalement on se débarrasse du moi ou de la prison du moi. C'est en ce sens libérateur, hein.
Oui,
C'est se libérer
je
de la
comprends.
prison du moi.
Oui. La pratique du sport est-elle une école de la vie, comme beaucoup le disent?
Oui, c'est une école de la vie. Alors, une école, ça dépend ce qu'on entend par école. C'est aussi quelque chose qui peut vous détacher, au bon sens du terme, de la vie quand la vie est trop trop prenante. Hein,
oui, où, je comprends.
C'est donc aussi une école de la prise de distance, du détachement. Et alors, ça me fait revenir à votre première question ou votre introduction, je ne sais plus, parce qu'on retrouve les deux aspects. C'est une école de la prise de distance et du détachement, mais en même temps, en régime capitaliste, consumériste, etc., c'est le marché.
Et oui.
C'est ce sont là exactement le contraire. C'est le conformisme consumériste le plus accompli, le plus abouti. On trouve la dualité, le double.
Et oui.
Du je t'aime, moi non plus.
Et oui.
D'un côté, en effet, ça vous détache de la vie au bon sens de détachement, mais de l'autre côté, ça peut faire peser sur vous la contrainte conformiste de l'univers du marché.
En effet, je suis d'accord avec vous. Serait-il aussi médicament comme on pourrait le penser ou pas, en tout cas pour peut-être se vider la tête?
Le sport de compétition à haute dose est quelque chose de très dangereux, tout le monde le sait. Pendant longtemps, on a voulu faire la promotion de la santé à travers le sport à haute dose le plus vite possible, etc. Mais on voit très bien que c'est le contraire qui se passe.
Mm-hmm.
On voit très bien que récemment, vous vous souvenez, lorsque l'équipe d'Afrique du Sud de rugby a gagné la Coupe du Monde, mais plus du tiers de l'équipe, ils sont morts. C'est trop. Oui, alors on peut parler des accidents qu'il y a dans le rugby, des morts de plus en plus précoces chez les champions, etc. C'est mortifère.
Oui, je comprends.
Le sport de ce côté-là. Mais si l'on pratique le sport à l'écart de cette folie mortifère, thanatique, qui est sous le règne de Thanatos, si vous voulez, c'est quelque chose, en effet, qui donne la santé, mais qu'est-ce que c'est que la santé ? Je n'en parle pas, on n'en parle pas au sens du pharmacien ou du médecin.
Oui.
C'est quelque chose de global, et si bien que pendant le moment sportif, il y a la santé au sens le plus fort, c'est-à-dire une sorte de bonheur d'exister.
Oui.
Ou de joie, enfin.
Oui, de bien-être qui pourrait...
Qui est à la fois celui du corps, celui de l'esprit. Ah voilà, on va prendre le mot respiration, parce qu'il y a esprit dans respiration.
Oui.
Il y a les deux. Dans le mot respiration, il y a le corps et l'esprit. Voilà, spirare, inspirer. Il y a aussi l'inspiration. Dans le sport, au bon sens du terme, il y a ces choses-là que l'on peut appeler santé.
Oui. Vous différenciez dans votre livre, à un moment, les assis et les de-peu. Pour vous, les assis y voient une distraction, alors que les de-peu y trouvent un goût à la vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pour les auditeurs ? Parce que dans le contexte du livre, on le comprend, les auditeurs pourraient s'y perdre.
Oui. Ce qui m'intéresse, dans ce cas-là, c'est les enjeux populaires du sport de compétition. Moi, je suis un rural, j'ai beaucoup vécu dans des petites villes du sud-ouest, où les gens, donc gens de peu, enfin c'est une formule de Pierre Sansot, gens sans prétention, souvent sans études ni culture, étaient très attachés à l'équipe de rugby, au rugby en général. Le résultat pour eux, c'était quelque chose. Je me suis dit, il y a là quelque chose d'important, d'intéressant, dans cet attachement à l'équipe de rugby du coin.
Oui, parce que là, c'est aussi le village qui compte.
Voilà, c'est ça. Les Assis, c'est chez Rimbaud. Bon, les Assis, c'était au 19e siècle, ceux qui, à la messe, avaient les meilleures places. Ils avaient leurs chaises avec leur nom. Et ils expliquaient bien aux curés, aux marguilliers, aux fabriciens, etc. Ils expliquaient bien, vous ne laissez personne d'autre s'asseoir sur... Voilà. Et souvent, les pauvres restaient debout et les notables étaient assis. Et donc, c'est un poème de Rimbaud, les assis, où ils se moquent un peu d'eux, même beaucoup, comme ça. Plus généralement, les assis, c'est finalement ceux qui sont bien installés dans la société.
Et oui, c'est vrai.
C'est ça que ça veut dire.
Mais tout à fait, à fait.
Et le sport, pour eux, c'est une distraction, un spectacle. Ils regardent les matchs de football ou de rugby comme un spectacle, avec un petit peu de passion, des enjeux, etc. Tandis que pour les gens de peu, l'enjeu est différent. C'est pas un spectacle. Parce qu'ils n'ont que ça.
Et oui.
Tout va très bien dans toutes ces petites villes du sud-ouest. Mais beaucoup de gens n'avaient que ça.
Et oui.
Tandis que les Assis ont toute une myriade de possibilités
et de distractions.
Et de distractions et de voyages et d'argent, etc. Le rapport passionnel au spectacle sportif n'est pas le même. Vous savez que dans les grands matchs de football, les assis, il y a les tribunes VIP, comme on
dit.
Oui,
oui, oui.
Voilà.
C'est vrai.
Et puis les autres.
Pourquoi le sport est-il un classement qui déclasse, d'après Alors, vous
J'ai écrit ça, un classement qui déclasse. Aïe, 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 je me souviens plus d'avoir écrit ça.
Moi, j'ai pensé, franchement, que vous vouliez peut-être dire justement que plus on montait dans le sport de compétition et plus on avait des classements, en fait, eh bien, ça appauvrissait peut-être aussi celui qui le pratiquait.
C'est souvent le cas, hein, de fait. Il y a dans le sport quelque chose qui est né au début de la modernité, au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec le libéralisme, c'est la passion du classement. C'est très lié à la passion du chiffre, du nombre, du calcul, des livres de comptabilité, enfin, du capital.
Oui, hein,
voilà.
Oui.
La passion du classement. Il faut absolument classer. Et ça déclasse au sens où, bien souvent, lorsqu'on veut être tout le temps le mieux classé possible, cela enferme. Hein, comme cela met des œillères. Je crois que c'est ce que je voulais dire dans cette formule.
D'accord. Vous philosophez automatiquement dès que vous voyez du sport ou pas. Est-ce que vous allez chercher par derrière pourquoi cette idée de...
Non, pas forcément. Il y a d'abord le plaisir, qui est un plaisir qui plonge ses racines dans l'enfance.
Oui.
C'est plutôt bien après que l'on se met à réfléchir sur le phénomène d'ensemble et qu'on le rattache à des questions que l'on peut se poser sur la société, sur l'homme, ainsi de suite. Je vais avouer, je devrais avoir honte peut-être, mais finalement, à mon âge, j'ai 68 ans, donc il ne reste plus énormément de temps à vivre. Si j'ai honte, ce ne sera pas pour longtemps. Je regarde toutes les courses cyclistes du mois de janvier jusqu'au mois d'octobre sur les différentes chaînes de télévision, sur Internet, etc.
Oui, parce que vous êtes vraiment un sportif de vélo. Vous.
Oui, je l'ai été.
Oui.
Je l'ai été quand je faisais 20 kilos de moins. bon. Et c'est le plaisir et la connaissance de la chose, du milieu.
Oui.
Mais lorsque, dans d'autres moments de l'existence, lorsque je me dis, là, il faut que tu creuses telle ou telle question philosophique, évidemment, comme le sport est un des phénomènes les plus importants dans la société moderne, l'interrogation philosophique va interroger le sport. Enfin, c'est quand même... Ouvrez un journal le lundi, par exemple, nos confrères de La Dépêche, combien de pages sont consacrées au sport? Au moins la moitié du journal.
Oh oui, si pas plus.
Si pas plus. Et alors même, pas seulement les localiers, tout, dans tous les villages, les pages locales, on va parler du sport qu'il y a eu dans le village et tout. C'est un phénomène qui a une importance sans doute aussi grande que la religion au Moyen-Âge. On en parle du matin au soir, on y pense du matin au soir, on est tout le temps préoccupé par cela. La moindre foulure d'un grand joueur de football, on va en parler pendant des jours et des jours. Alors, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Oui et non, si ça ne les intéressait pas, on n'en parlerait pas non plus. Hein.
Oui, tout pas... à fait. Bon. Après, aussi, c'est peut-être le rôle inversé.
Oui, oui.
Si on lui dit, il va s'y intéresser.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Je me souviens que lorsque il a été décidé d'organiser la Coupe du Monde de football aux États-Unis, les réactions disaient... Mais ça ne va pas intéresser, les Américains ne s'intéressent pas au football. Et la réponse des grands trusts médiatiques, c'était les gens s'intéressent à ceux dont on leur dit qu'il faut s'y intéresser.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Sauf que la culture nationale américaine, et alors ça c'est rassurant, a quand même eu le dessus, ça a été très limité dans le temps. Ils sont intéressés au football européen et sud-américain pendant 15 jours, 3 semaines, parce que c'est aux États-Unis, mais finalement ça n'a pas pris.
Et, oui.
Et ils ont continué à être, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle, ils ont continué à être passionnés par leur sport américain, le Super Bowl, qui nous ne nous intéresse pas beaucoup parce que nous allons les trouver trop violents.
Oui, je comprends. Vous dites que ce divertissement n'existait pas il y a 3 siècles et ne serait plus à l'avenir, peut-être. Pourtant, dès les Grecs anciens, on pratiquait déjà du sport. Y avait-il une différence?
Oui. Je vais essayer d'expliquer. Ensuite, il y a eu une éclipse. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et pendant des siècles et des siècles, est-ce qu'on pratiquait ce qu'on appelle le sport à Rome? Entre les Grecs et les Romains, c'est très, très différent. Chez les Romains, c'était plutôt un spectacle cruel et barbare.
Tout à fait.
Dans les arènes, ce n'était pas le cas des Jeux olympiques chez les Grecs. La première grande différence, c'est que chez les Grecs...
Plus du paraître, peut-être, et
oui.
Plus... Oui, on a un homme.
voilà, c'est exactement ce que vous dites. L'athlète... Oui. Devait réaliser la perfection humaine. Tandis que chez les modernes, c'est le contraire. Il doit toujours aller plus loin. Il doit briser les limites, dépasser les limites, quitte à se transformer complètement par le dopage et d'autres méthodes. Parce que là encore, c'est le capital, si vous voulez. Le capital, c'est toujours plus. Il est illimité.
Oui.
Voilà. Tandis que chez les Grecs, c'était dans une perspective beaucoup plus, alors déjà nous dirons humaniste, c'était l'accomplissement de la perfection humaine.
Oui, l'humain avant, dans le magnificat de l'humain.
Parfaitement. Ce que nous appelons sport de compétition, avec tout le système des sports, c'est quelque chose qui est apparu au début du 19e siècle en Angleterre,
d'accord,
avec d'abord une idée économique et politique très précise. Vous savez, on construit les usines, et puis on arrache les gens à la terre pour les jeter dans la misère des usines, où ils passent leur vie, où l'espérance de vie est d'ailleurs de 20-22 ans dans les années 1810, pas plus. Et ces gens, il faut les discipliner.
Mm-hmm.
Et alors, tous les textes du patronat de l'époque, mais les paysans sont indisciplinés. Et donc, on imagine d'abord le sport, le football en Angleterre. Le rugby, c'était le sport des riches, mais le football, comme quelque chose à donner au peuple pour le discipliner, pour lui apprendre, par exemple, qu'on ne conteste pas l'arbitre. Mais l'arbitre, c'est le contremaître dans l'atelier. Donc, au début, c'est très, très lié à la révolution industrielle, l'apparition du sport. Alors, on est quand même très loin des Jeux olympiques grecs.
Du sport, voilà, tout à fait. Du sport vrai. Le sport est donc une question d'argent, c'est aussi un système, et donc tout est lié, comme vous dites, à la commercialisation du sport et de la vie.
Voilà, d'un côté c'est ça, mais je t'aime moi non plus.
Et oui.
Comme c'est une chanson de Gainsbourg, je crois, je t'aime moi non plus. Donc d'un côté c'est ça, mais de l'autre côté c'est d'émancipateur, de libérateur dont nous parlions tout à l'heure. Par exemple, je critique, et vous avez l'air d'accord, effectivement le système sportif, son côté mercantile, etc. Mais en même temps, et beaucoup d'anciens sportifs ou de sportifs nous écoutent peut-être, en même temps, c'est un lieu de rencontre.
Ah mais tout à fait.
S'inscrire dans une équipe de football, c'est un jeu de rencontre, c'est se faire des amis. C'est quand même sortir de chez soi, s'éloigner de chez soi, ou pour un adolescent de chez ses parents. Donc c'est une émancipation. C'est une émancipation, c'est entrer dans le monde, si vous voulez. Dans certains milieux, vous aviez le bal d'initiation pour les jeunes filles et les jeunes garçons pour faire des rencontres. Mais dans les milieux populaires, c'est le sport réussit cela. Cette sortie de chez ses parents où l'on va rencontrer...
Les gens qu'on ne rencontrerait pas ou les petits copains qu'on ne rencontrerait pas dans la vie ordinaire.
Et peut-être même d'autres classes sociales.
Et oui.
Dans les campagnes, les différences de classe ne sont pas très très marquées.
Oui.
Mais dans les grandes villes comme Paris, on peut rencontrer des gens d'autres classes sociales et avec un très grand écart. C'est un côté positif du sport, cela, je trouve.
Donc j'ai bien compris que le sport devrait être avant tout personnel pour pouvoir grandir en soi-même et se développer côté nature, côté humain. Ça devrait être aussi un spectacle pour justement égayer les gens et faire du plaisir à ceux qui le pratiquent. Est-ce que la société se calque sur le sport et la politique aussi peut-être?
Finalement, il me semble trouver trois questions dans ce que vous venez de dire. Le spectacle bonheur, oui, mais que constate-t-on assez souvent? Le fanatisme.
C'est vrai que j'y ai pensé à la lecture et quand j'ai fait cette question, j'y ai pensé aussi. mais on le verra un petit peu plus loin. Bon, j'ai vu ce
alors,
rapport.
On laisse de côté le fanatisme. et donc, c'était la société et la politique. Est-ce que cela ressemble au sport?
Des fois, moi, j'ai envie de dire oui, hein, franchement.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis, au mauvais
oui.
Côté du sport, dans la mesure où c'est une course à l'ego. Et puis même à la tricherie où tous les coups sont permis. Là, nous faisons référence à l'hypocrisie que j'ai constatée parfois dans le sport, dans tous les sports, où des entraîneurs qui voudraient être des éducateurs disent à des jeunes « Mais là, quand l'arbitre a le dos tourné, tu peux tricher. »
Et oui.
Si vous voulez. Ou bien quand on entend un commentateur de football, j'ai un exemple précis, lors d'un match France-Irlande, je crois, il y a une quinzaine d'années, un joueur français marque un but de la main. Le but est validé parce que l'arbitre a mal vu, mais le commentateur à la télévision voit qu'il n'y est pas. Il dit, mais bon, l'arbitre ne l'a pas vu, tant mieux, c'est tant mieux, vous voyez.
Oui.
Donc dans ce cas, le sport est une école de la malhonnêteté et du vice, hein, d'où le rapport que vous avez pu faire avec la politique, par exemple. Ceci dit, bien entendu, la politique peut être aussi, doit être, devrait être, et de temps en temps, alors c'est toujours quelque chose d'utile et d'indispensable, hein, puisqu'il vaut,
oui.
il vaut mieux cela que les dictatures, ainsi de suite. Hein. Mais c'est parfois aussi quelque chose de tout à fait noble et vertueux.
Oui. Page 30, vous résumez, l'emprise sportive diffuse l'impératif de l'évolution qui, dans les sociétés actuelles, organise l'humiliation de chacun. Ça, c'est fort, parce que j'ai lu deux fois cette phrase, parce que j'ai dit, mais c'est énorme ce qu'il a voulu mettre là dans cette phrase. Et justement, on en revient à la question de tout à l'heure, c'est de la doctrine ou pas? Et si oui, c'est très grave.
On est dans une société de l'évaluation. Où on évalue, alors tout le temps, hein, vous recevez un colis qui vous est livré, vous recevez ensuite un mail, voulez-vous noter notre livreur?
Tout à fait.
Donc je refuse toujours. L'évaluation, c'est l'humiliation.
Oui.
Voilà. C'est donc l'humiliation et la passion fondamentale, passion triste et mauvaise, hein, fondamentale de cette évolution-là de la société.
Mm-hmm.
Bon. Et sous un certain aspect, le sport-spectacle, c'est cela aussi. Une société de la compétition et de l'évaluation, c'est forcément une société qui tire son plaisir de l'humiliation de l'autre. Je ne crois pas que l'on puisse construire une vie commune avec plus de bonheur et de bien-être ensemble si on fait de l'humiliation un ressort des rapports humains, y compris à l'intérieur du travail.
Mmh. À la lecture de votre ouvrage, apparaît que du sport à la guerre, il n'y a qu'un pas. Je me suis trompée ou pas?
C'est Reagan qui a écrit ça.
Oui, mais bon. C'est vrai que quand on y réfléchit, quand on a lu cette phrase et qu'on y réfléchit, on se dit, mais finalement, c'est un petit peu ce qui se passe dans les politiques, et
oui.
Surtout en ce moment.
Oui. Souvent, on chauffe à blanc une population avant un match, comme si c'était la guerre. Alors on dit Francfort arrive, Istanbul arrive, des
oui.
noms de clubs. On emploie des mots pour exciter les gens, pour exciter les supporters, qui sont des mots d'une grande violence et du registre guerrier. Et ensuite, on va se plaindre qu'il y a eu des bagarres,
oui.
des incidents très, très curieux. On jette de l'huile sur le feu, puis ensuite on se plaint qu'il y ait eu le feu. La guerre, qu'est-ce que c'est? La guerre moderne, c'est l'extermination complète de l'adversaire.
Mm-hmm.
C'est la guerre radicale. Il arrive que le sport, ce soit cela.
Bon. D'accord.
Il arrive aussi que dans des régimes dictatoriaux, on utilise le sport pour, cela peut même être pour pousser à la guerre ou plutôt pour développer des sentiments guerriers
voilà.
à l'intérieur de la société.
Oui.
Alors je ne fais pas référence seulement aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin,
mm-hmm.
ou bien à la manière dont la RDA utilisait le sport. On peut faire référence à des, par exemple, à la dictature argentine dans les années 70, une Coupe du Monde a été organisée en Argentine, que l'Argentine a gagné, bien évidemment. Le contraire eût été impossible, vraiment impossible. Et cette Coupe du Monde a été utilisée par les dictateurs argentins, dont le général Videla, par le pouvoir qui l'entourait, pour insuffler deux choses, des sentiments guerriers à toute la population et en même temps coller la population au pouvoir.
D'accord.
Voilà. C'est-à-dire réaliser une sorte d'osmose entre la population et le pouvoir en utilisant la Coupe du Monde de football et donc la fierté nationale.
Oui.
Alors, fierté de l'organiser, ensuite fierté de l'avoir gagné.
Oui. Et en même temps, modeler le peuple comme on le veut.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça.
J'ai toujours entendu dire les hommes font la guerre et un seul écrit l'histoire à sa manière. Est-ce que c'est pareil aussi pour le sport ?
C'est le vainqueur qui écrit l'histoire à sa manière. Ce n'est pas tout à fait pareil pour le sport. C'est parfois comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que finalement, j'ai dit des choses très critiques que je crois justes. Mais de notre côté, le bon sens, après coup, finit toujours par l'emporter. Mm-hmm. Et quand les passions sportives, les passions nationalistes, etc., sont présentes, les passions du supporter pour son club, son pays, sa nation se sont calmées, on va s'intéresser aussi aux perdants. Et pour celui qui aime vraiment le sport, il dépasse ces passions-là. Et lorsque le grand joueur est dans l'équipe adverse, il va admirer le grand joueur.
Et oui.
Évidemment. Vous savez, l'équipe de France de rugby a souvent perdu contre les All Blacks.
C'est vrai.
Et ça ne nous empêchait pas d'admirer les All Blacks et de dire, oui, finalement, ils nous battent parce qu'ils ont des joueurs extraordinaires. Mm-hmm. Ils avaient des joueurs extraordinaires.
Oh oui. Dans votre narration ressort que le sport est une manipulation du peuple. Et je vous rejoins dans cette idée. Est-ce une pyramide comme certaines ventes venues d'Amérique ou pas, justement, ce sport ?
Oui, oui, oui.
Que l'on monte comme ça ?
Oui, oui, c'est une pyramide, vous avez parfaitement raison, je pensais à ça aussi.
Mm-hmm. Robert, nous allons faire une pause musicale. Qu'est-ce que vous nous avez choisi pour reprendre notre souffle ?
C'est Annie Garde. Voilà, la première, c'est « Je voudrais mourir en Ariège », oui. Et la deuxième, c'est Annie Garde. Alors, je peux dire deux mots sur cette chanson.
Oui.
Je crois que Annie Garde est une femme accusée de sorcellerie, mm-hmm. qui a été brûlée ou pendue, je crois, en Angleterre. Ben écoutez, très belle chanson.
Des malheureuses brûlées vives par milliers, à la mémoire des malheureuses méprisées, égorgées, violées, qui n'ont jamais connu les fantaisies de l'enfance, le hasard des naissances. Juste des balles perdues, c'est ainsi que les hommes pensent. Maudits seront tous les bourreaux. Ce soir je pense à Annie Gold qui fut pendue à Great Paxton dans le comté de Huntingdon. À la mémoire des malheureuses aux flammes abandonnées, à la mémoire des malheureuses fusillées, déchues, oubliées, qui gisent dans leur vomi sûr, qui meurent de leurs blessures. Ces délires de réussite et de consécration sociale, c'est ainsi que les hommes méditent. maudisseront tous les bourreaux. Ce soir je pense à Anne Higgard qui fut pendue à Gretsch Paxton dans le comté de Huntingdon en Angleterre. Dans le comté de Huntingdon en Angleterre. Ce soir je pense à Anne Higgard qui fut pendue à Gretsch Paxton dans le comté de Huntingdon.
Page après page, Gisèle pour vous servir, je suis en compagnie de Robert Redeker qui nous propose son ouvrage « Sport, je t'aime moi non plus » paru aux éditions Robert Laffont en collaboration avec, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai déjà oublié.
L'INSEP, alors voilà. Institut National des Sports et de la Performance.
Oui, et c'est paru donc au printemps 2022. C'est un très beau livre, je conseille aux auditeurs de se le procurer parce que vraiment, ça fait réfléchir. Bon, peut-être que moi, j'étais déjà un petit peu enclin là-dedans, dans ces questions, dans ce questionnement, mais vous avez éclairé beaucoup.
Et 10 euros, ce n'est pas cher.
Et voilà, en même temps. Donc, merci pour cet intermède musical que nous avons bien apprécié. Je vous cite. Pourquoi faire du sport ? Pour vous produire vous-même comme un être en pleine santé ? Une autoproduction ? Une illusion ? Vous y allez fort quand même là, parce que c'est une façon de dire que le sport est un sacerdoce, pour ne pas dire tout à l'heure autre chose, un autre mot.
Mais parce que par le sport comme par la culture, c'est pour ça que je dis autoproduction, on oui. se change soi-même, on se transforme. Hein. Qu'est-ce que c'est que la culture ? C'est une puissance de transformation, le sport également. Et il faut faire attention à éviter la vanité qui pourrait venir de cela. C'est-à-dire, bon, la vanité que vous trouvez bon, parfois chez des culturistes ou des gens comme ça.
Oui.
Dire, je suis moi-même le résultat de mon propre travail. Parce que ce n'est pas la vérité.
Et non. Hein.
Je me suis un peu modifié. Donc finalement, la vanité qui menace le sportif, mais qui peut menacer aussi le savant, enfin, c'est de croire finalement qu'il n'a ni père, ni enfant, ni ancêtre, qu'il est entièrement sa propre création, sa propre œuvre.
Oui, voilà. Je comprends.
Et là, c'est l'humilité qui est défaite, et sans humilité, il n'y a pas de vie.
Oui. Et justement, de cet état-là que vous venez de dire, à la secte, il n'y a qu'un pas.
Oui, il n'y a qu'un pas. Je crois que tout à l'heure, nous...
Justement, c'est pour ça.
Voilà. Souvent, l'on peut avoir un rapport au sport, surtout quand il s'agit d'un sport collectif, qui relève du fanatisme, de l'appartenance à une secte. On ne pense qu'à son club et à ses joueurs du matin au soir. Donc finalement, on ne vit plus. On ne vit plus, on ne pense plus par soi. Par soi-même, mm-hmm. on est plus libre.
En et fait. Oui, tout à fait.
Lorsqu'on a mis trop le doigt dans l'engrenage des associations de supporters. et un grand nombre de rites qui accompagnent cela, qui sont des rites sectaires, mais il ne faut pas s'étonner de la violence. Parce que la violence que l'on constate sur les stades de football, presque tous les dimanches, c'est une violence fanatique.
Tout à fait.
C'est-à-dire le même type de violence que celle qui peut être liée au phénomène des sectes.
Mmh. Robert, le sport est-il le café du peuple ou en tout cas présenté comme par les administrateurs d'État ou de très grandes entreprises, ou alors est-ce qu'il est le reflet du quoi qu'il en coûte ?
Ah, l'idée quoi qu'il en coûte, c'est une idée intéressante. Bon, parce que c'est au fond l'idée du sacrifice.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, le sacrifice, c'est un philosophe comme Georges Bataille, juste après-guerre, bon, ça a été le philosophe du sacrifice, hein, de la question du sacrifice, Georges oui. Bataille. Il a réfléchi à cette question au sujet du plan Marshall, justement. Mais c'est le plan Marshall qui a poussé sa réflexion sur le sacrifice. D'abord, c'est le sacrifice dans la modernité. Le sacrifice, c'est une fonction religieuse très ancienne dans l'humanité, qui remonte au début de l'humanité et qui est fondatrice des sociétés. C'est anti-économique, mais il ne peut pas y avoir de société humaine sans sacrifice. C'est ça, anthropologiquement.
Bon. Oui.
Et quoi qu'il en coûte, alors lorsque M. Macron ou les journalistes croient qu'il s'agit de... Quoi qu'il en coûte, c'est une formule anodine que l'on reprend comme ça. Non, c'est la formule depuis les débuts de l'humanité du sacrifice. Et le sacrifice est structurant des sociétés, oui. Si vous voulez. Je peux vous dire ça. Vous savez, moi, je suis un catholique croyant et pratiquant, et tous les dimanches, lorsque je vais à la messe, je donne une certaine somme à la quête. C'est le sacrifice.
D'accord.
C'est d'ailleurs traité comme le sacrifice. C'est-à-dire, on échappe au déterminisme de l'économie. Donc, par le sacrifice, on affirme sa liberté.
D'accord.
Voilà quoi qu'il en coûte.
Café du peuple ou pas, alors, le sport ?
C'est quoi le café du peuple ?
Ben, on donne le café au peuple, justement, pour pouvoir mieux le manipuler.
Oui. Mais ça n'est pas que cela. C'est-à-dire que quand vous donnez le café au peuple pour pouvoir le manipuler, en même temps, le peuple se l'approprie.
Oui, tout à fait.
Et en se l'appropriant, il se le transforme, il est à lui.
C'est vrai.
Lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'attachement dans les petits villages du sud-ouest des gens à leur équipe de rugby, c'est l'appropriation.
De chacun, c'est vrai.
Ou bien je vais prendre un exemple plus fort. On remonte au début de la révolution industrielle. Bon. Il faut mater le peuple. On invente surtout le football en Angleterre. C'est pour ça.
Oui.
Bon. Mais que s'est-il passé ? Le football en Angleterre. Les héros, working class héros, comme ont chanté les Rolling Stones.
Oui.
Les joueurs de football, ce sont les héros des classes ouvrières. Les héros des gens de peu. Donc, dans quoi les gens de peu se retrouvent, se projettent au fond, pendant très longtemps dans le football anglais, parce que le football anglais, c'est quelque chose de très, très populaire. Liverpool, Manchester, dans les stades, c'était les ouvriers qui se retrouvaient. Comme pendant longtemps en France, à Sochaux, à Valenciennes, à Sedan, c'est les ouvriers qui se retrouvaient. Et les joueurs étaient issus de la classe ouvrière.
Oui.
Ce ne sont pas des enfants de la bourgeoisie qui deviennent des stars du football. Aujourd'hui, ce sont des enfants des banlieues, en charpie. Le peuple, que l'on veut bien sûr manipuler, finalement, investit ce qu'on lui tend par ses propres valeurs. C'est ça, working class hero. Donc on retrouve, si vous voulez, l'ambiguïté.
D'accord.
J'essaie de vous manipuler, je vous donne le café. Ouais, finalement, le café, je le prends et il devient autre chose.
Oui. Le sport pourrait abêtir ceux qui le pratiquent, quelque part. Le handisport, lui, il est bien loin de tous ses fastes, puisqu'on le voit fort bien pendant les Jeux Olympiques, les handisports ne sont quasiment pas reconnus. On en parle parce qu'il faut, voilà. Mais pas plus. Et puis donc, il rapporte moins aussi, c'est peut-être moins facile, la manipulation. Quel est le plaisir dans la pratique du sport quand on inflige tant de souffrance à un corps, pour ne pas dire peut-être aussi de la haine au fond de nous-mêmes sans le savoir? Est-ce qu'il n'y a pas une limite quand même que l'on doit se faire chacun.
Alors, je vais essayer de reprendre vos deux, le handisport.
Oui.
La réticence que le spectacle peut avoir par rapport au handisport, qu'il essaie pourtant de récupérer, c'est qu'il a quelque chose d'inquiétant. Avec le sport, on veut fabriquer de l'euphorie. Mais le handisport, que porte-t-il avec lui ? Quand on veut le cacher, mais il porte le côté tragique de l'existence humaine. Il porte la finitude, la maladie, la blessure, mais la maladie et la blessure, ce sont les masques de la mort.
Mm-hmm.
Et on ne veut pas que le spectacle inquiète et pousse à s'interroger. C'est pour ça qu'on est très réticent vis-à-vis du handisport, alors que je trouve cela magnifique que la condition humaine, dans ce qu'elle a de tragique, apparaisse à travers le handisport en pleine lumière. Si vous voulez, on développe le spectacle sportif pour que les gens ne se posent pas de questions, ni politiques, ni sociétales, oui, ni métaphysiques. Mais le handisport pose des questions métaphysiques et c'est pour cela qu'il inquiète. Voilà, donc ça c'était le premier point.
Est-ce qu'il ne faut pas se mettre une limite quand on veut pratiquer ?
Si, mea culpa. J'ai beaucoup aimé souffrir. C'est... Oui, oui.
Ah oui ?
Oui. Et je crois que tous les sportifs aiment souffrir. Et on t'invite à savoir... Enfin, on a toujours envie de supporter un peu plus de souffrance. Ça, je crois que c'est l'orgueil.
D'accord.
C'est l'orgueil. Je suis plus fort que la souffrance qui m'atteint.
Mais cette souffrance peut faire vieillir nos cellules.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Il ne faut pas la recommander à la jeunesse. On peut la payer très cher. Mais oui, c'est l'orgueil. Mm-hmm. Hein, je suis plus fort que moi. Enfin, je suis plus fort que la souffrance que je m'inflige.
Oui.
Alors, en même temps, je crois qu'il y a aussi dans... Alors ça, c'est un aspect. Et vous avez évoqué un autre, c'est la haine du corps. Bon.
Et oui, parce que si on le fait souffrir, c'est qu'on ne l'aime pas, ce corps. Donc, on le...
C'est qu'on s'aime soi. C'est-à-dire que le corps... Alors, il y a deux... Un versant et un autre versant. Bon. Le premier versant, c'est en effet celui dont on vient de parler, une sorte d'amour de la souffrance. Et on aime son corps, mais on veut voir jusqu'où on peut le dompter. Voilà. Le second versant, que je trouve beaucoup plus inquiétant, c'est que chez le sportif de compétition, le corps, il se blesse, le corps rechigne, et pour réussir la performance, ben le corps est un obstacle. Je serais beaucoup plus fort au centimètre et si je n'avais pas de corps, c'est-à-dire si je n'avais pas des blessures à force de... Vous savez, vous tapez dessus, hein,
oui,
ça fait mal. Hein, ça, bon, et le corps a mal, donc il est un obstacle à mes 13 secondes 1, 13 secondes 2 pour réussir le record au centimètre et le sportif de compétition, je m'entraîne et le corps me gêne dans ma performance. C'est ou bien dans le cas du cyclisme, qui est ma grande passion. On a vu ce dimanche quelque chose de magnifique. C'est la victoire de Remco Evenepoel après 277 km au champion du monde de cyclisme. Mais ce Remco Evenepoel a été gêné, a dû ressentir son corps comme un obstacle pendant un an et demi à la suite de sa chute dans le Tour de Lombardie il y a maintenant 18 mois. Donc vous voyez comment dans le sport, le corps peut être à la fois un allié, mais aussi...
Un ennemi.
Oui, parce qu'il réclame.
Et oui.
Ou parce qu'il dit, mais arrête, je veux plus, j'en ai marre,
oui,
de taper les genoux contre les haies.
Oui.
Voilà donc un obstacle.
Et oui. Les sportifs de haut niveau seraient-ils des esclaves modernes, puisqu'ils sont vendus et achetés comme du bétail? Et quand on y réfléchit, ça ressemble à de l'esclavage quelque part.
C'est l'aspect parfaitement déplaisant de ce qu'on appelle le mercato. non seulement au football, mais de plus en plus dans d'autres sports, où l'on vend et on achète des êtres humains, comme font des maquignons avec des bœufs, mm-hmm. hein, si vous voulez. On a aboli l'esclavage, mais...
on en a créé un autre, quelque
voilà.
part.
Voilà. Alors, on va dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, heureusement, écoutez, si vous êtes acheté pour 4 millions d'euros tous les 6 mois, bon, comme des joueurs du Paris Saint-Germain, alors on peut pas parler vraiment d'esclavage. Mais
on non, peut, mais c'est de l'esclavage quand même voilà, moderne.
On peut parler de quelque chose d'indigne.
Voilà.
Ce qui est indigne, c'est d'acheter et de vendre des êtres humains. Ce qui est encore plus indigne, c'est de trouver cela normal.
Oui.
Et, alors je dis que c'est encore plus indigne parce qu'au fond, c'est dangereux. C'est dangereux au sens où ça habitue la société à ce qu'on traite les êtres humains comme des marchandises que l'on peut acheter et vendre.
Oui.
Si bien que désormais, on parle aussi de mercato dans le journalisme.
Et tout à fait.
Voilà. On parle de mercato dans le monde de l'édition.
Oui, aussi.
Et oui.
Oui.
C'est fort. C'est pour cela que je vous dis que, autant qu'indigne, c'est dangereux.
Oui. En tout cas, je vous remercie, Robert, de m'avoir confié cette lecture, parce que j'avoue qu'il m'arrive et qu'il m'est arrivé depuis très longtemps de me poser des questions. Pourquoi le sport, toujours en avant, pourquoi le sport a une si grande importance pour les gens? Eh bien, vous m'avez donné beaucoup de réponses à toutes ces questions qui ont longtemps tourné dans ma tête et qui ne trouvaient pas de réponse. Et donc, là, je les ai eues.
C'est quelque chose de très étonnant, en fait. L'importance du sport dans la société et l'importance grandissante, parce que ça n'existait pas il y a 3 siècles. Et lorsque le sport a commencé à se développer, on ne pensait pas que... si vous plongez, même là, si vous allez dans les archives de la Dépêche, alors au début du XXe siècle, les résultats sportifs, c'est quelques colonnes en bas de page.
Oui.
Aujourd'hui, c'est la moitié du journal.
Ah, tout à fait. Mais
donc,
tout
c'est,
à fait.
C'est un phénomène qu'il faut analyser et qui est un phénomène extraordinaire et qui était imprévisible.
Tout à fait. Que vous ont dit les gens qui ont lu votre livre, si vous en avez déjà rencontré ou ceux qui ont lu et qui vous connaissent et qui vous disent « Ah oui, mais... »
Pourquoi je ne peux pas vous répondre? Parce que vos amis... ne vous diront pas du mal de ce que vous faites.
C'est gentil, merci. Vous êtes professeur, est-ce que vous en avez échangé avec des jeunes ou des élèves ou d'anciens élèves?
J'ai 68 ans, je suis à la retraite.
D'accord. Bon.
Par contre, d'anciens élèves ont acheté le livre et l'ont lu. Ils me disent que ça leur plaît beaucoup. J'espère que ce n'est pas en attente... d'une bonne note et d'une bonne appréciation qu'ils n'auront pas puisque je suis à la retraite.
Avez-vous un autre ouvrage en route ou peut-être
oui.
est-il fini?
Oui, il y en a un qui va sortir au printemps
oui.
aux éditions du CERF. Ça s'appelle L'abolition de l'âme ou l'hémorragie des philosophes.
Ah oui, ça va être quelque voilà. chose de très intéressant à lire.
Le point de départ, c'est que « âme » était le mot le plus employé par la philosophie pendant des siècles et des siècles et qu'il a disparu. Pourquoi ?
La couverture de celui-ci, c'est vous qui l'avez faite ?
Non.
Non.
La photo a été faite, c'est marqué qui a fait la photo.
Je n'ai pas le livre sous la main, donc... Robert, il faut nous quitter, c'est déjà fini. Et vous avez choisi une nouvelle musique pour cette fin de discussion. Quelle est cette musique que nous allons écouter?
Une nouvelle fois, nous allons écouter Ariel Burgelin. J'ai beau ressembler à ma mère.
Bien, ben, on va l'écouter. Je vous dis à bientôt. Peut-être on aura l'occasion de reparler de notre livre dans le futur. En tout cas, je vous remercie énormément de cette lecture. Elle m'a beaucoup plu. Je vous assure que j'avais peur parce que je me suis dit c'est un philosophe qui l'a écrit. Il va m'amener où? Et puis finalement, j'ai retrouvé tout ce que moi j'avais envie de poser comme question Eh bien voilà, j'ai des réponses. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous laisse le mot de la fin.
Nous y sommes arrivés. Je garde un très bon souvenir de cette émission. Merci beaucoup. Merci aussi aux auditeurs pour avoir eu la patience de nous écouter.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
Après page, une rencontre intimiste avec un auteur.